Société avec Nick Payne.
Et bonjour à tous. Très heureux d'être au microphone ce matin pour une autre édition de Société. Au menu aujourd'hui, beaucoup de choses. Nous allons revenir sur l'abolition ou la refonte du cours d'éthique et de culture religieuse. Nous allons parler également de ce refus de la Cour suprême d'entendre la cause de M. Bibeau, ex-grand argentier du Parti libéral du Québec et ami de Jean Charest. Peut-être connaissance de William Corbatly qui est ici ou pas. De toute façon, il a fait un drôle d'air. On va lui demander dans quelques instants. Et nous allons aussi parler des courses à la direction d'une part du Parti conservateur canadien et d'autre part du Parti québécois. Il y a des noms qui s'ajoutent, d'autres qui s'enlèvent, en tout cas qui s'enlèvent dans le cas du Parti conservateur, dans le cas du PQ. Pour le moment, on additionne, semble-t-il. Il y a toujours plus de candidatures. Il n'y en a pas des douzaines non plus, mais on est au PQ dans une situation qui fait dire à plusieurs observateurs que c'est une sorte d'heureuse surprise. Il y a plus de candidatures de calibre, semble-t-on dire, que ce à quoi on s'attendait. On verra avec Frédéric Lapointe qui est ici, lui aussi, ce qu'il en est exactement. Puis, on va aussi parler de ce blogueur dont on a publié des portraits récemment dans Urbania et dans la presse. Il s'appelle Xavier Camus. Il traque, dit-il, l'intolérance, la droite identitaire et nationaliste ou conservatrice. Il dénonce, et il y avait une réplique dans la presse ce matin d'un professeur de l'Université d'Ottawa qui remet en question un peu les méthodes de M. Camus. Donc, tout ça dans quelques instants, mais commençons par dire bonjour à nos invités. J'ai oublié de vous dire que Steve Fortin, chroniqueur au Journal de Montréal, sera également avec nous dans quelques instants. Alors, j'ai nommé tout à l'heure William Corbatly, notre libéral en résidence. Bonjour, William Corbatly.
Bonjour, Nick.
Merci d'être avec nous ce matin.
Merci à toi.
Ou cet avant-midi. Pour moi, c'est le matin. Il y a des gens qui se lèvent tard. Mais on salue ceux qui sont debout depuis 5 heures, 6 heures, 4 heures. Et bonjour, Frédéric Lapointe, notre...
Bonjour.
Péquiste, pas tout à fait en résidence. Vous êtes un peu moins souvent ici que William, mais c'est pas parce qu'on n'essaye pas. Hein? Vous êtes un homme occupé. Une chance, il y a des gens qui prennent la relève de votre point de vue quand vous êtes pas là.
Voilà.
Mais merci d'être avec nous ce matin. Commençons. Chose promise, chose due. William Corbatly, vous vouliez répondre à Mathieu Boccoté qui, la semaine dernière, s'exprimait sur l'abolition ou la réforme du cours ECR, donc d'éthique et de culture religieuse, ce cours qui est né et qui a vécu sous le coup de la controverse, au fond, pendant une dizaine d'années, là, depuis la fin des années 2000 jusqu'à ce qu'on annonce sa refonte. Boccoté est de ceux qui disent que c'est un cours qui endoctrine les jeunes sous l'égide du multiculturalisme canadien, du relativisme et autres défauts de ce genre. Vous, William Corbatly, vous avez plutôt vu dans ce geste du gouvernement caquiste une forme de l'idéologie, en fait, et une façon là, de faire une politique identitaire ou de clivage, ou dites-le mieux dans vos mots, là, je vous ai lu rapidement là-dessus.
Oui, en fait, pour moi, c'est plus grand, même, pense, plus large qu'une simple idée de multiculturalisme ou bien de idéologique ou quelque chose comme ça. Tout ça s'inscrit dans ce que j'appelle cette théorie de complot utilisée par beaucoup d'identitaires, c'est la théorie de remplacement.
Le grand remplacement. Là, vous y allez fort. C'est Renaud Camus, l'idéologue français qui est assez bien vu dans les milieux de droite et d'extrême droite.
Un autre Camus.
L'ancien Front National. On est dans les Camus aujourd'hui, vous avez raison. Camus ne se
ressemblent pas.
Non, semble-t-il.
En fait, c'est qu'il y avait un article qui a été publié le 18 janvier, par Benjamin Ducol, chercheur expert en terrorisme et en radicalisation. Et il dit, il faut rappeler que c'est une idée sans fondement qui repose sur des biais de perception erronée. Un peuple de souche ne peut être remplacé par un peuple extérieur, étant admis qu'un peuple n'ait jamais eu une identité fixe, ni établie dans le temps, ni figée. Il n'y a pas plus que de Québécois de souche aujourd'hui qu'il y en avait il y a 100 ans.
Alors, condamnait l'idéologie du grand remplacement. Il expliquait aussi que ça date d'avant Renaud Camus. Hein. Il y a eu de toutes les époques, une peur,
exactement,
chez certaines populations.
Exactement.
Ça a été les Juifs à un moment donné. On craignait en Europe. Europe qui remplace.
Et là, je continue.
Mais où est le lien avec la CAQ et le cours de CR?
Mais parce que c'est ça, c'est que la CAQ, selon moi, c'est dans toutes ses promesses, vraiment la seule vraie réalisation que la CAQ a fait, c'est le projet 9, la loi d'immigration, qui est reliée à l'autre. 2, et la loi sur laïcité.
La loi 21.
La 21, c'est relié à l'autre. Alors,
donc, vous dites que tout ça est cohérent, à tout le moins.
En plus, c'est Gérard Bouchard lui-même qui le dit dans Le Devoir, le 18 aussi. La loi 21 a été adoptée aux dépens du droit dans le mépris des tribunaux grâce à un rétrécissement de la nation avec le soutien de la partie la plus homogène de la population et au prix d'une déviation de la démocratie.
Ça, c'est le texte de Gérard Bouchard publié en fin de semaine,
Devoir,
je crois, dans Le
exactement,
Devoir.
Exactement. Alors, mais tout ça, moi... C'est que, et même, comment elle s'appelle, juste, je cherche son nom rapidement, là.
Mais dites-moi oui. William Corbatly, comment, alors, si j'interprète bien ce que vous dites la refonte ou la réforme ou le remplacement, pour revenir à ce terme, du cours de CR s'inscrit dans le cadre d'une politique identitaire nationaliste comme, de la CAQ qui est fondée sur le on veut tabler sur la peur du grand remplacement.
Exact.
En tout cas.
Et Francine Pelletier le bien dit, c'est dans son titre d'article le 15 janvier aussi, c'est une allergie à la religion. Alors, ça là, il y a la CAQ utilise cette allergie à la religion que certains Québécois qui sont leur propre clientèle, leurs propres électeurs, et pour, en fait, pour dire, regardez, on se met debout pour vous, etc. C'est vraiment, c'est dans ce sens-là, alors qu'il y a beaucoup de chercheurs de renommée, de renom, qui disent, mais non, le cours ECR, c'est un grand succès. Même, il y avait, je pense, en fin de semaine aussi, une émission sur Radio-Canada de la personne qui est un péquiste, je pense, le CR était instauré dans le temps des péquistes, du gouvernement péquiste, si je ne me trompe pas, au début. Et c'est que lui, il était étonné même que le Parti québécois a cette position maintenant qu'il veut l'abolir complètement. Et même, je termine par dire qu'il y avait cette étudiante, Gabrielle Adams aussi, qui a lancé un appel, un vidéo dans son projet, comme quoi nous, on veut une école plus inclusive. Elle est secondaire 5, je pense, ou secondaire 4. C'est comme ça comment on va avancer, surtout nous, la relève. Alors, c'est tout ça ensemble, ça
vous,
monte.
Pour vous, ça s'inscrit dans un continuum intolérant donc, qui est allergique
pas,
à l'autre.
Je
parce
je
que
pas
là, il y a l'élément
là,
anti-religieux. Il faut, ça, c'est peut-être une autre raison. Là. En tout cas, parce qu'il y a eu plusieurs façons de s'opposer à ce cours-là. Il y avait effectivement ceux qu'on a taxés de laïcards, un peu comme en France, qui sont juste allergiques à toute notion, au simple fait qu'on traite de la religion à l'école. Ça, c'est autre chose. Mais pour en revenir à votre principale objection, qui est celle de la politique identitaire,
exactement,
disons, de la CAQ.
Exactement.
Je ne veux pas dégonfler votre balloune, comme on dit en chinois, mais le ministre Roberge, lui, s'est montré très modéré dans ses propos. Il a dit, vous savez, je paraphrase, hein, je n'ai pas la citation exacte, mais grosso modo, il a dit, vous savez, ce cours-là, il y a quand même un paquet de bonnes choses dedans, notamment la question d'inculquer aux étudiants l'ouverture à l'autre et de lui apprendre les différentes coutumes pour que, à l'avenir, dans l'avenir, il ne stigmatise pas certains groupes. Alors,
ça c'est l'éthique, mais est-ce que tu as fait, Nick, répondu au questionnaire publié par le ministère?
Alors, le questionnaire est en ligne, c'est comme ça que commence la consultation publique.
Alors, c'est
non,
ça.
Moi,
alors,
je peux aller,
dans, il y a 10 questions, des centaines et des centaines de mots, et le mot « religion » apparaît uniquement une seule fois comme partie de « religieuse ». Du mot religieuse. Alors,
Frédéric Lapointe.
Voilà.
Qu'est-ce que
j'ai pas d'opinion particulière sur le cours de CR.
Mais je vais vous demander une chose.
Mais
William
sur le débat,
Corbatly,
j'en ai une.
parlait de Gérard Bouchard, oui, qui a publié en fin de semaine. Et Monsieur Bouchard n'y va pas de main morte en disant essentiellement François Legault veut exciter le sentiment de peur de la majorité dans les régions, dit-il, là où on a la nostalgie de l'ancienne nation canadienne-française. Mm-hmm. Est-ce que c'est pas gratiné ça comme façon de dire les choses, comme si, quoi, la nation canadienne-française n'existait plus ou alors les gens des régions sont une bande d'arriérés?
Je pense que M. Bouchard a raison lorsqu'il analyse les intentions du gouvernement. En universitaire rompu à la démographie et à la sociologie, je ne pense pas que Gérard Bouchard est un partisan du retrait de la nation dans l'État-nation qu'est le Québec. Il me semble que les gens qui tiennent un discours sur l'éducation au Québec gagneraient à ne pas être trop créatifs lorsque quelqu'un qui travaille en matière de déradicalisation appuie son argument sur le cours SAR en disant « Il n'existe pas une telle chose que des Québécois de souche. »
Ça, c'est quel est son nom déjà dont William Corbatly parlait?
Disons que ça n'ajoute pas à la crédibilité du discours parce que, en particulier au Québec, là, mais on peut accumuler le nombre d'étonations dans le monde qui se sont constituées pour précisément libérer les peuples d'aristocratie, d'empire, de régime qui les privait de liberté fondamentale. Alors, aujourd'hui, dire il ne faudrait pas abolir ce cours parce qu'il n'y a pas une telle chose que des Québécois de souche.
Ça, c'est Benjamin Ducol.
Il ne faut pas qu'il y ait
dont parlait William.
Dans l'espace politique une telle chose que l'idée d'une nation. Ça me semble passablement farfelu et dangereux parce que dans l'état actuel des choses, oui, on vit des changements qui peuvent être accélérés par rapport à auparavant et je pense que tout le monde ne prend pas la pleine mesure de cette accélération. Intellectuellement, il y a des gens qui ont de la difficulté là-dessus. On va en reparler quand on parlera des minorités visibles à la Ville de Montréal. Eh bien, moi, je pense au contraire, il faut que les gens fassent le constat qu'il y a une telle chose qu'une nation majoritaire dans cette entité qui est un État qui est nommé Québec et que tout le monde respire par le nez. Et les minorités et la majorité. Et donc, en ce sens-là, Gérard Bouchard a raison, mais je ne pense pas qu'il faut tomber dans le négationnisme pour retrouver la modération.
Alors, vous avez une opinion, autrement dit, sur les ressorts de ce débat-là, plus que sur le cours ECR lui-même. Là,
exact.
Avez-vous l'impression, comme moi, c'est ce que je faisais valoir à William Corbatly, que le ministre Roberge, répond à une directive du bureau du premier ministre. Et en ce sens-là, on pourrait aller dans le sens de William Corbatly, c'est-à-dire qu'on voit bien que ça s'inscrit dans la démarche nationaliste ou identitaire ou conservatrice de la CAQ, mais que M. Roberge n'est pas un partisan là, de la table rase dans ce dossier-là. Il a lui-même enseigné ce cours-là et il chante les vertus de l'ouverture à l'autre.
Il enseigne au primaire, essentiellement. Donc,
c'est vrai.
Il y a un volet éducation à la citoyenneté, enseignement de la réalité des religions primaires, mais c'est
plus on dit qu'il a enseigné,
le cours
ECR, donc dans ce contexte-là.
Non, je ne peux pas juger des intentions de Jean-François, là, même si je le connais. Je ne pense pas que cela soit très utile dans le débat de multiplier les procès d'intention à cet égard. Il y a une telle chose au Québec qu'une majorité qui partage un parcours historique qui remonte à plusieurs siècles, qui occupe le territoire depuis plusieurs siècles. À un moment donné, on va parler d'Autochtones un jour là, ou de nativistes selon les autres, et qui, face aux changements qui sont vécus en ce moment, peut vivre des angoisses qui sont exploitées politiquement. Ça, c'est un sujet.
Alors, vous dites...
un sujet qui ne disparaîtra pas. Et donc, la tâche politique qui nous incombe, y compris dans les lieux d'éducation, où, parce que la géographie étant ce qu'elle est, parfois la majorité est très peu représentée dans ces lieux d'intégration que sont les écoles québécoises, eh bien, oui, il va y avoir des débats. Il va y avoir des débats et des gens vont dire « Ah, mais ce cours-là ne me ressemble pas. » Puis ils vont dire ça à Roberval, puis ils vont dire ça à Montréal-Nord. Mais que voulez-vous? La tâche d'intégration de l'école va être, oui, de faire sentir la réalité de l'autre à celui qui suit les cours et qui fréquente l'école obligatoire. Et à Roberval, ça va vouloir dire une chose. Et à Montréal-Nord, ça va vouloir dire autre chose. Mais il faut que ce soit un parcours commun. Et comme c'est un parcours commun, il va être sujet à la politique.
Ah, pour revenir en terminant au propos de William Corbatly, est-ce que je vous suis bien si je dis que vous notez comme lui que ce geste du gouvernement caquiste de réformer ou d'abolir le cours relève quand même d'une volonté
oui,
identitaire, nationale,
oui,
mais vous trouvez ça moins scandaleux que lui, en fait.
C'est inévitable. C'est inévitable.
Donc, il y a ce besoin au Québec de se rassurer sur ces questions-là, c'est ce que...
Je pense que c'est un objet politique. Il y est inévitable qu'on ait le débat sur cette question-là. Moi, je n'ai pas d'opinion particulière sur ce qu'elle devrait être le contenu de ce cours. Mais une chose ne peut pas être, il me semble, dans ce débat, et c'est l'idée qu'il n'y a pas de majorité au Québec qui peut se doter d'un programme d'éducation
comme le dit Benjamin
pour amener
Ducol,
la société quelque part. On n'est pas,
il n'y a pas plus de Québécois de souche, dit-il, aujourd'hui qu'il y a 100 ans.
Ah non, c'est je pense qu'il est en dehors de son expertise, si j'ose dire. La déradicalisation, c'est un sujet d'expertise. Je ne m'improviserai pas dans ce sujet-là. Mais lorsque quelqu'un vient dire que la nation Québec n'existe pas,
Ducol est un intervenant.
C'est un petit peu spécial, on l'admettra.
Spécialisé en combat contre la radicalisation ou en déradicalisation.
Donc, imaginez une population où quelqu'un arrive de l'extérieur et leur dit « Vous ne devez plus décider de votre programme d'éducation. C'est le souverain absolu qui va en décider ou c'est la puissance étrangère qui va en décider ou c'est les bien-pensants, les juges, les commissions des droits qui vont en décider. » Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est objet d'un débat public. Et oui, on peut faire des procès d'intention sur les uns et les autres, mais il faut accepter qu'un système d'éducation, qu'un programme d'éducation et même que le contenu des cours, c'est sujet à la politique.
Ah, on fait de la politique. Donc, alors, dans un instant, on va continuer de parler politique puisque c'est notre dada dans cette émission avec Steve Fortin et nous revenons ensuite à nos deux invités. À tout de suite. De retour avec vous. Alors, sans plus de préambule, bonjour, Steve Fortin, chroniqueur au Journal de Montréal. Vous êtes bien là?
Oui, je suis là. Salut, comment ça va?
Merci, vous très bien. Merci, vous aussi. Bonne année. Hein? Je pense qu'on ne s'est pas parlé.
On est passé le 15, on dit plus ça, ça a l'air.
Ah, vous, c'est le 15.
Bon, d'accord. Non, j'ai aucune idée, c'est tellement arbitraire. Oui. Mais oui, je te la souhaite bonne et je la souhaite bonne à tous les gens qui sont là aussi.
À nos auditeurs.
C'est une belle tribune que vous menez là, puis c'est ça, c'est intéressant, on peut se parler.
Bon, ben allez, servons-en nous. Commençons, sortons un peu du Québec un instant, quoique pas complètement, pour aller jeter un coup d'œil sur la course à la chefferie qui se dessine au Parti conservateur du Canada. Alors, les candidats viennent et vont. Madame Rona Ambrose, la progressiste de l'Ouest est désormais hors-jeu. Peter MacKay, lui, ancien cofondateur du parti dans son état actuel, va se présenter, dit-on, là, incessamment. Gérard Deltel sort de la course. Et Jean Charest. Alors, commençons par M. Charest, si vous voulez bien, Steve. Est-ce que cette ambiance-là de retour sur l'épisode Parti libéral et financement plus ou moins légal va hanter Jean Charest longtemps ou est-ce que la bête politique va prendre le dessus et nous faire oublier ça assez rapidement, d'après vous?
En tout cas, moi, ce que je peux voir, et c'est assez rare qu'on voit ça au Québec, il y a certains dossiers qui vont fédérer à peu près tous les groupes de presse, même ceux qui sont adversaires ou concurrents. Mais là, dans ce cas-ci, je veux dire, il faut quand même le souligner, hein. Tu sais, c'est un consortium média qui s'est présenté devant devant les tribunaux. La presse, Journal de Montréal, il y en avait Radio-Canada aussi. Je pense quand même que Gazette était là, à moins que je me trompe. Puis là, ben, tu sais, on fait libérer tous les documents. Puis là, tout à coup, tu sais, ce qui s'est passé avec le financier Marc Bibeau, lui, qui est allé au bout de toutes les ressources possibles pour garder autant que possible la documentation, le visant le Parti libéral et par le fait même aussi, donc, Jean Charest, son chef. Là, ce qui s'est passé, c'est que tout à coup, on a été comme exposé au pire moment possible pour Jean Charest à ce qui se trouvait dans ces documents-là. Puis là, ben, ce qui arrive, c'est qu'on prend la loupe puis on grossit là des dossiers qu'on aurait préférés, surtout à ce moment-ci pour Jean Charest, dont on ne parle pas. Et c'était absolument sidérant, même, je dirais, surréaliste d'entendre l'avocat de Jean Charest quand il est passé à RDI là, à l'émission de Anne-Marie Dussault, quand il disait, il sommait finalement les autorités de lâcher Jean Charest et d'arrêter l'enquête mâchurée, puis tout ça.
Puisqu'il n'est accusé de rien, dit-il, hein, c'est ça, M. Charest est toujours
Il n'est accusé de rien, mais il est toujours un suspect, puis il est toujours visé, donc dans le cadre d'une accusation criminelle, puis dans les... en tout cas, là, ça, c'est un petit peu plus nébuleux, parce que quand j'ai consulté des articles dans le Canada anglais, de gens qui... Parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup. Puis, là, laisse-moi faire un petit aparté ici, parce que je crois que c'est important. quand j'ai demandé, par exemple, à Frank Graves de Echoes, le PDG, je lui écrivais en lui demandant, quand vous allez sonder les gens, les sympathisants et les membres du Parti conservateur, allez-vous ajouter le nom de Jean Charest? Je lui avais demandé déjà il y a un mois, puis plus ça se... parce qu'ils ont sondé quand même à des moments différents, puis plus on a sondé à des moments différents, on se rendait compte que ça ne levait pas tant que ça pour Jean Charest dans le Canada anglais. Mais surtout, je lui ai demandé cette question-là dans le cadre d'un article sur lequel je travaillais. Est-ce que les dossiers éthiques qui minent Jean Charest, on dirait, là, dans le et ça, c'était avant que tout ça soit publié, avant que la Cour libère les documents. Et Frank Graves m'avait dit, si jamais il y a quelque chose qui sort, regarde le type de publication, regarde comment on va traiter de la chose dans le Canada anglais versus dans le Canada français, puis ou au Québec. Puis là, ce qui s'est passé, c'est exactement ce qu'il disait, 36, 48 heures après la libération des documents. Bon, il y a eu un texte de Justin Ling qui était assez difficile, là, qui était assez dur pour Jean Charest dans le National Post, mais on n'a pas eu le même genre de couverture, puis les histoires d'éthique de Jean Charest vont lui nuire au Québec et vont lui nuire à la chefferie conservateur dans la mesure où il se lance parce que ses adversaires, eux, regardent ça puis se disent, voilà, on garde ça puis on met ça dans notre petite poche en arrière et ce sera toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête de Jean Charest.
Mais vous dites que c'est un moins lourd passif au Canada anglais, c'est ce que vous dites?
Tout à fait, puis pour m'en convaincre, j'ai sondé, prête-moi le mot, là. J'ai sondé Frank Graves là-dessus, puis il me disait, moi je suis certain que ce genre de questions-là, ça va avoir une moins grande résonance dans le Canada anglais, en tout cas, tu sais, dans la population en général. Puis on le voit bien, on le constate bien, c'est quand même un ancien premier ministre du Québec, un qui a été là très longtemps, qui a fait 3 mandats, et on parle ici d'une histoire de corruption qui est, et tu sais, je veux dire, on est dans la corruption, dans la collusion, dans le patronage, je veux dire, dans le copinage, on est, mais pourtant, ça ne colle pas, on n'en parle pas autant dans le Canada anglais, puis une raison pour ça, c'est qu'en ce moment, Jean Charest n'est pas un prétendant de premier plan pour les conservateurs du Canada.
Ah bon?
Anglais.
Ça, c'est un élément important. Donc, c'est pas nécessairement parce qu'on accorde là-bas moins d'importance à ces histoires-là, ou encore peut-être parce qu'on se dirait, bon, écoutez, il a un peu triché, mais c'était pour l'unité canadienne. Je sais pas, on a déjà entendu des choses comme cela. Mais dites-moi, je me fais l'avocat l'avocat du Charest, comme on dit, instant pour les besoins de la discussion. Pendant toute son histoire, sa carrière politique, Jean Charest est quelqu'un pour qui ça lève pas, pour reprendre vos mots, jusqu'à ce qu'il soit en campagne. Et là, soudainement, la bête se révèle et il surperforme jusqu'à nous étonner. Je me souviens, vous parliez de sondages. Tout au long de son séjour dans l'opposition, avant de prendre le pouvoir en 2003, Jean Charest avait des scores faméliques, des très bons niveaux d'appui, tant pour lui-même que pour son parti. Et même une fois au pouvoir, hein, aussi, ça allait très mal pour les libéraux, jusqu'à ce que, à chaque élection, finalement, le tigre sortait et se battait âprement jusqu'à la victoire. Pensez-vous qu'il est encore capable d'avoir ce genre de performance?
Bien, il faut justement, revenons-en à cette histoire-là. Jean Charest s'est fait tirer l'oreille pour partir du fédéral. En fait, là, le Parti conservateur, ça commençait à aller beaucoup moins bien. Il vient au Québec. Il a profité de la faiblesse et de l'affaiblissement constant de son adversaire principal à l'époque, qui était le Parti québécois. Lui-même, qui était en décroissance, je veux dire, tu sais, les années post-Lucien Bouchard et je veux dire, ensuite Bernard Landry. Là, ça commençait quand même. Là, la sauce prenait beaucoup moins bien. Il y a eu une conjoncture favorable pour nous en 2003. Il a été élu, mais n'en demeure qu'il s'était fait désirer aussi. Je veux dire, il y a des gens qui on était allés chercher. Puis là, c'est beaucoup moins facile cette fois-ci. Jean Charest a tenté de placer ses pions. Il a envoyé ses émissaires pour essayer d'avoir l'assentiment de Stephen Harper. Et ce qu'il a reçu, c'était plutôt une notice de guerre. Donc là, maintenant, Stephen Harper, qui a encore un ascendant très fort dans le parti,
qui a démissionné de son poste là comme financier ou quelque chose comme ça pour pouvoir mieux se battre contre une candidature Charest. C'est ce qu'on laisse entendre en coulisses.
Il faut le dire, ça, c'est très important. Et là, ce qui se passe, c'est que tout à coup, ce qu'on voit, puis ça, j'ai lu ça dans le Canada anglais, par exemple, il y a un article dans l'Air Politics qui était fascinant de ce côté-là. On disait, voilà, nous sommes revenus à la case départ. Les clans qui s'affrontaient à l'époque où on a fondé le Parti conservateur actuel, ben on est revenus en arrière, puis ces clans-là vont se battre encore une fois les uns contre les autres. Puis, ça part mal pour Jean Charest dans le sens où on voit que Peter McKay s'est lancé. Dans le fond, on aurait probablement préféré qu'il y ait un une seule personne de ce clan-là. Puis de l'autre côté, les anciens réformistes, les conservateurs un peu plus sociaux de l'Ouest aussi, pro-pétrole, mais ceux-ci vont également tenter de se fédérer derrière un seul candidat à un moment donné.
Alors, ce serait lequel, justement? Parce qu'on a l'impression que ça tout se déplace vers l'Est et vers la gauche, pour le mettre, employer ce mot. On peut être à droite et se déplacer un peu vers la gauche et rester à droite, si vous voyez ce que je veux dire, mais... ça serait qui, celui qui serait le représentant de l'aile réformiste canadienne de l'Ouest, là?
Ben, c'est difficile pour moi de je ne sais pas encore qui va, parce que là, on connaît pas encore toutes les données. On sait que ce qu'on appelle communément le dépôt, là, c'est-à-dire la caution financière pour se présenter, elle est quand même très élevée. Donc il y a des gens qui vont attendre quand même jusqu'à la dernière minute avant de s'engager. C'est ce qui a fait que Gérard Deltel, par exemple, a décidé de se désister. Michael Fortier y a pensé aussi, mais je veux dire à 300 000 $, si je me souviens bien, $300 000, c'est une grosse, c'est un très très gros montant quand même. Il faut y penser avant de se lancer. Est-ce que Pierre Poilievre va être capable? Là, il a commencé une mini tournée au Québec, puis on dit que son anglais est pas
son français
il est pas si tu sais, qu'il est assez, peut-être assez habile, mais on remarquera aussi que des voix conservatrices s'élèvent dans le Canada anglais pour dire peut-être que cette fois-ci ce serait le temps de penser au fait que c'est pas obligatoire que notre chef soit bilingue. Et il y a des bons candidats, il y a des candidats qui étaient pressentis mais dont le français était déficient. Puis il y a des gens qui chuchotent que justement Ronan Ambrose, ben c'était peut-être un peu ça. Il y avait
parmi ses problèmes. Monsieur Poilievre, lui, serait évidemment le candidat. Alors, il a des origines dans l'Ouest, mais il représente quand même la branche plus progressiste. Il s'est dit opposé à ce qu'un projet de loi, un dépôt de projet de loi privé, par exemple, sur l'avortement, il empêche une telle chose. Donc ça va même plus loin que ce que Stephen Harper à l'époque. Hein? Alors, est-ce qu'il est le candidat, pourrait-il être le candidat de l'Ouest conservateur avec des positions comme celle-là?
Il se pourrait bien, mais il se pourrait aussi que ce candidat-là ne soit pas encore connu. Il se pourrait qu'on n'ait pas encore trouvé ou que des tractations se fassent encore. Oublions le retour de Stephen Harper. Moi, je n'y crois pas. Stephen Harper va jouer dans l'ombre, mais est-ce que Stephen
Harper... Moi, quand je disais que M. Harper voulait se battre contre Jean Charest, c'était en qualité de militant. Hein? On n'imagine pas une candidature.
Non, mais on lit ça. Il y a des gens qui espéraient ça. Puis quand on fait les sondages, qui serait le plus apprécié, tout ça, ben son nom revient. On le fait avec Pascal Bérubé au PQ, puis tout le monde sait très bien que Pascal Bérubé, moi je peux te le dire, j'en ai parlé souvent avec lui, il va pas se présenter. Donc faut arrêter de mettre son nom là, mais on le met quand même parce qu'il est très apprécié, puis encore et toujours des militants qui disent vas-y Pascal, lance-toi, il se lancera pas.
Ben alors, mais justement, Steve Fortin, comme le temps nous bouscule, il faut qu'on traverse.
Je veux juste dire, par contre, Nick, que Stephen Harper ne se représentera pas, et on a qu'à regarder par exemple les gens qui sont autour de lui, les gens de l'Université de Calgary, par exemple, certains enseignants qui sont là-bas, ils le savent, ils le disent. Oubliez ça, il n'y aura pas de candidature Stephen Harper.
Comme Guy Lafleur ne reviendra pas au jeu pour aider le Canadien dans cette période difficile. côté du Parti québécois, oui. Alors, les choses s'organisent, se dessinent tranquillement. Les observateurs parlent d'une course qui pourrait être plus relevée que prévu. Nous savons désormais que Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a déjà été candidat à la chefferie du Parti québécois, annonce sa candidature la semaine prochaine ou dans les jours qui viennent. Il sera, dit-on, sur une ligne plus claire, plus proactive sur la question de la souveraineté et du peut-être du référendum. Et puis, on a entendu parler de Stephen Hanfield, cet avocat spécialisé en droit de l'immigration. Nous l'avions à l'émission la semaine dernière. Il confirme de son côté qu'il y réfléchit sérieusement. Moi, mon impression, c'est qu'il va y aller. Et il se place vraiment dans le siège de l'indépendantiste proactif. Là. Donc, promesse de référendum. Mais c'est l'enjeu principal d'une éventuelle élection. Et si un jour on est élu avec ça, dit-il, bien, on aura les coups des franges pour agir dans le calendrier référendaire, si on veut. Est-ce que, outre ça, là, ou même à travers ça, comment percevez-vous ces deux candidatures dont on vient d'apprendre la probable concrétisation?
Oui. J'aime beaucoup la candidature de Stephen Hanfield. Je ne m'en cacherai pas. C'est quelqu'un que je connais.
J'ai oublié un morceau important. Pardon, je vous interromps, mais ça va vous nourrir. Oui, oui. C'est aussi quelqu'un qui propose une vision plus modérée sur la question de l'immigration qu'un Frédéric Bastien, par exemple. Et c'est quelqu'un qui dit ni de gauche ni de droite, mais on coalise et on va vers l'indépendance. Est-ce que tout ça, qu'est-ce que ça vous dit?
Bien, justement, justement, et parlons-en de sa position. Quand j'avais commencé à rassembler des gens pour le collectif chez Québec Amérique de démantèlement tranquille, c'est les questions identitaires, j'hésitais à y toucher, puis je savais pas. Je me disais, on peut pas prendre un livre multithème comme ça, des grands thèmes au Québec, qui n'a pas parlé de ça. Mais c'est quand j'ai rencontré, j'avais déjà parlé avec Stéphane Anfield dans le passé pour différents articles, mais là, quand je l'ai rencontré, c'est rapidement devenu quelqu'un que j'ai apprécié beaucoup, beaucoup, justement parce qu'il avait une position modérée. Je remarquerai toutefois, puis ceux qui le suivent sur Facebook, sur les réseaux sociaux, parce qu'il distille un peu d'informations sur ses positions, le simple fait qu'il ait demandé de suspendre l'entente des pays tiers sûrs, ben ça lui a valu encore une fois de la part de d'autres indépendantistes, semble-t-il, je veux dire, les sempiternelles accusations de xénophobie puis de racisme. Ça a l'air qu'on peut même pas parler de ce thème-là. Et on l'enjoignait de simplement pas parler de ça. Faut pas parler de ça. Mais il faut arrêter ça, là. Je veux dire, il y a pas de, dans le mouvement indépendantiste, il va falloir, à un moment donné, qu'on se penche sur des questions comme celle-là. Que ce soit du point de vue de l'environnement, ou du point de vue, par exemple, de la gestion de nos frontières, ou même de notre propre rapport à notre identité, puis à notre nationalisme. Il va falloir se pencher sur ces questions-là. Et Stéphane Anfield a une position modérée. C'est quelqu'un qui connaît mieux que quiconque, à titre d'avocat en droit de l'immigration. Quand j'ai des questions, quand il y a quelque chose que je comprends pas, c'est justement l'une des sources vers lesquelles je me tourne. Frédéric Bérard en est une autre aussi. Et j'aime bien comment il a. Mais on n'est pas d'accord sur tout, mais ça prend justement des gens comme ça. Et si Frédéric Bérard est indépendantiste, mais c'est le genre d'indépendantiste que j'aime, moi aussi, avoir dans la grande famille des indépendantistes, ça en prend. Et Stéphane Anfield, l'avocat là, comme tel, là, j'aurais de la difficulté, moi, à le voir comme vraiment, c'est quelqu'un qui est très de gauche ou très de droite. Justement, c'est quelqu'un qui me semble assez polyvalent là,
sur son profil, la personne. Alors, on parle ici de Saint-Pierre Plamondon, Anfield, Sylvain Gaudreau. On n'est pas dans les grandes vedettes non plus, hein. Et puis, il y avait un texte signé par des femmes publié en fin de semaine, notamment Louise Arel, qui invite les femmes à se présenter dans la course à la chefferie du Parti québécois. Il n'y en a pas présentement avec le forfait de Véronique Yvon pendant cet été, là, ou à l'automne. Est-ce que c'est un concours aussi relevé qu'on le dit? Parce qu'effectivement, Stéphane Anfield est très peu connu. Paul Saint-Pierre Plamondon un peu plus, et puis Sylvain Gaudreau un peu plus, mais bon. Et est-ce que ça manque de femmes?
Bien, ça manque de femmes, je veux dire, à celles qui sont intéressées par ça, de se présenter. Mais, tu sais, d'un autre côté, moi, je veux que les candidats, les candidates, ceux qui sont vraiment... Je veux que les gens s'engagent, là, vraiment, non pas parce que, je sais pas, moi, à cause de l'origine ethnique, sexuelle ou peu importe, les gens qui veulent y aller. J'aimerais ça, moi, j'aurais aimé que justement, Véronique Yvon y soit. C'est une personne, tu sais, elle y est allée la dernière fois. Là, la conjoncture, tu sais, fait en sorte que c'est pas le bon moment. OK, j'admets ça, il n'y a aucun problème. Mais encore faut-il que justement la personne qui soit là, ben il s'y investit. C'est pas une mince affaire, là, qu'on soit homme ou femme ou peu importe qui y va, c'est une grosse affaire que de se lancer dans un projet comme celui-là, celui de vouloir devenir chef d'un parti. Donc déjà, moi, je vois que ceux qui lèvent la main puis qui se disent intéressés, j'aime bien ce que je vois. C'est pas encore terminé. On n'a pas réglé le cas de Guy Nantel. J'en parlais en fin de semaine avec différentes personnes. On me dit qu'il ira. Mes sources les plus proches me disent que sa réflexion est pas mal arrêtée puis qu'il voudrait y aller. Ben tant mieux. Et espérons qu'il y ait au moins une candidature féminine. Mais tu sais, d'un autre côté, c'est la même chose qui se passe dans tous les partis politiques. Là, en ce moment, au Parti libéral, c'est celle qui est en tête de liste. C'est une femme. Ben tant mieux. Puis félicitons. On s'en félicite. On verra maintenant la campagne. Au Parti conservateur, ben, c'est un petit peu plus difficile. Et on va le dire là, quand même, au Québec, là, la relation des Québécois avec les femmes au pouvoir jusqu'à maintenant, il y a eu une seule femme première ministre. Ça n'a pas été une conjoncture très heureuse.
Ah, là, vous ouvrez un autre débat pour une autre émission, mais Steve Fortin, toujours très agréable de vous entendre. Et on vous entend à nouveau sous peu, j'espère bien, parce que là, ça ne fait que commencer, ça, au Parti.
Oui, il faut regarder ça au Parti conservateur. J'espère qu'on va y porter un œil, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bonnes littératie, de bons textes qui s'écrivent en ce moment dans le Canada anglais. On pourrait même parler de ça à un moment donné, juste de ce qu'on en dit pour placer un peu les choses, parce que ça s'en vient.
Alors, parfait. Toujours un plaisir.
OK, merci beaucoup.
À la prochaine. Salut. Alors, dans un instant, nous revenons avec Frédéric Lapointe et William Corbatly sur les sujets dont on vient de traiter avec Steve Fortin, mais aussi nous allons Mais aussi, oui, nous allons parler de ce blogueur Xavier Camus et également de la représentativité de la capacité de la Ville de Montréal à finalement à intégrer des minorités dans les gens qui travaillent pour elle. À tout de suite. Nous voilà de retour. J'ai cru que cette phrase ne se terminerait jamais. On y reviendra de toute façon. Je n'en rajoute pas. Restons sur le sujet de la course à la direction du Parti québécois. Pendant que le Parti libéral, lui, prépare aussi cette élection d'un nouveau chef, chez les libéraux, ça a 20 000 membres, hein? Un creux historique du nombre de membres. Je ne sais pas comment ça va au Parti québécois là-dessus, mais tous les deux grands partis sont probablement dans un creux historique à ce point de vue. Et en général, les partis politiques ont moins de membres qu'avant. Mais en tous les cas, il faut encore des chefs. Frédéric Lapointe, vous êtes proche, c'est le moins qu'on puisse dire, du Parti québécois. Est-ce que vous trouvez votre compte jusqu'ici? Et parlons spécifiquement de Stéphane Hanfield, puisque c'est le dernier annoncé, là, si on veut, ou presque annoncé. Est-ce que vous avez l'impression, comme moi, qu'il va se lancer d'abord? Et qu'est-ce que vous pensez de cette candidature?
Oui, je pense qu'il va se lancer. Il croit à un certain nombre d'idées phares qui détonnent, si on veut, du débat actuel. Donc, je suis convaincu qu'il trouve sa pertinence lui-même. Parce que la première question à se poser avant de se lancer dans une entreprise politique, c'est est-ce que ça me tente? C'est une question intéressante, là, mais est-ce que c'est pertinent? Et je pense que sur l'immigration, il veut marquer un point. Je pense que sur la question gauche-droite, il veut effectivement marquer un point. Est-ce qu'il veut gagner? Ça, c'est moins certain. Je ne pense pas qu'il a pour projet réaliste là, d'être premier ministre du Québec là, dans 2 ans, mais très certainement, il veut participer au débat et il a un propos qui sera facilement opposable à celui d'autres candidat dans cette course.
Vous avez un point de vue, j'allais dire, candide. Moi aussi, j'ai connu, des gens qui voulaient se lancer à la chefferie de parti politique et je pensais, avant d'en connaître, qu'on y allait de façon très pragmatique en disant, voici, mes chances sont à peu près comme ceci. Bon, j'ai pas tellement de chances de gagner, donc je vais y aller pour participer au débat. Quand on côtoie ces gens-là, on se rend compte qu'ils y croient à leur candidature. Ils sont sûrs qu'ils vont gagner, même quand ils ont 1,5%.
Ouais, c'est un peu une figure obligée aussi, parce qu'on peut pas mobiliser autour de soi en disant « je me présente, mais je vais perdre ». Non, c'est pas la façon de faire. Je le conseillerais à personne comme organisateur.
Alors, vous pensez qu'en son fort intérieur, quelqu'un comme Stéphane Hanfield se dit « bon, j'ai pas… »
Moi, je pense qu'il n'y a pas d'espace pour que Stéphane Hanfield remporte cette course à la chefferie. Je pense que l'espace centriste, modéré, un peu beige, c'est Sylvain Gaudreau qui va l'occuper largement. Et donc, il n'y a pas… La niche est occupée.
Alors là, c'est l'élément engagement référendaire dans ce cas-là qui fait la différence pour Stéphane Hanfield. Parce que M. Gaudreau, c'est très clairement exprimé sur la ligne classique du Parti québécois, là, en disant « bon, écoutez, faudrait surtout pas perdre un troisième référendum, nous allons prendre notre temps, il faut pas brusquer, provoquer les choses ». Hanfield est ailleurs. Là, c'est Martine Ouellet.
C'est une phrase un peu malheureuse de M. Gaudreau. On pense qu'il n'essaie pas tout à fait ajusté au goût du jour ou à la nouvelle donne politique, mais je vous prédis qu'il va s'ajuster très rapidement.
Ah oui, vous pensez que c'était des mots malheureux?
Je pense que le défaitisme, le misérabilisme...
a fait son temps?
A fait son temps, mais...
A fait son œuvre.
N'est plus une qualité pour les leaders du Parti québécois. Ce qu'il faut, c'est un discours décomplexé. Ce qu'il faut, c'est réhabiliter le débat référendaire, pas diffuser la peur de perdre, qui est probablement la chose la plus castratrice de notre entreprise de libération nationale. C'est quoi cette histoire d'avoir peur de perdre? Je pense que les leaders vont sortir du premier débat à la course à la chefferie, passablement à l'unisson, en disant « voici la voie, voici si les débats qu'on a eus par le passé au Québec, non, on ne fera pas ce débat-là tous les 18 mois, mais à chaque fois, le Québec a grandi et c'est l'expression peut-être la plus magnifiée de notre liberté politique que de débattre si on veut rester associé avec le reste du Canada. Et donc, présenter ça comme sous le mode de l'angoisse, sous le mode de la peur, sous le mode de la phobie, c'est vraiment pas des qualités pour un chef du Parti québécois.
Parlons de ça à William Corbatly, qui ne peut pas être soupçonné d'être indépendantiste, mais qui est toujours ouvert au débat. William Corbatly, et vous qui êtes aussi critique des positions plus nationalistes, plus dures, par exemple, sur l'immigration, la candidature de Stéphane Anfield, je reste là-dessus, c'est le plus récent candidat potentiel. Comment percevez-vous ça? Est-ce que c'est une ouverture réelle, d'après vous, en ce qui a trait à l'immigration, une forme de détente possible? Est-ce que M. Anfield peut faire du millage, comme on dit, avec ça?
En fait, M. Anfield est parmi les avocats les plus populaires et même spécialistes en matière d'immigration au Québec, si pas au Canada.
Mais ça ne voudrait pas dire, en principe, qu'il est inconditionnellement en faveur de l'ouverture.
Je ne dis pas l'ouverture. Là. Encore une fois, là, le débat sur le seuil d'immigration, c'est un débat nécessaire. Là. Mm-hmm. Parfois, on doit le hausser, parfois, on doit le baisser. Ça, il n'y a pas de problème pour moi. Il faut faire le débat. La question, c'est comment? Mm-hmm. Et pourquoi on veut baisser? Pourquoi on veut le hausser?
Alors là-dessus, M. Anfield dit « Remettons ça entre les mains d'un comité d'experts qui, lui, sera en lien avec le bureau du vérificateur général. »
Exact.
Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, je suis d'accord parce que ce sont des experts qui vont dire « Bon, OK, parce que là, on a besoin de tel nombre d'immigrants, mettons, pour le Québec, mettons. »
Tel facteur, la pénurie
de main-d'œuvre. Exactement, pénurie de main-d'œuvre, on a besoin, je ne sais pas, parce que ce n'est pas juste pour des facteurs économiques, il y a d'autres...
J'espère bien.
Exact, c'est ça. Alors, il faut humaniser, en fait, le débat sur le seuil d'immigration. Et non pas utiliser pour dire, encore je reviens à cette théorie de grand remplacement.
Instrumentaliser,
c'est ça.
Sur
ça, Stéphane Halti, je pense, c'est une très bonne candidature. Et moi, je lui ai dit, là, si j'avais pas déjà mes propres couleurs politiques, peut-être j'aurais acheté ma carte PQ, là.
Sauf que M. Anfield va en sens contraire de ce qu'un libéral doit penser. Normalement, il dit, moi, c'est vraiment l'indépendance qui est au cœur de mon engagement et il y aura un référendum si je suis élu. Qu'est-ce que vous pensez d'une position comme celle-là, les gens vont dire
c'est la bonne position.
Ça va faire fuir l'électeur.
C'est la bonne position parce que la façon Jean-François lisait, là, on a vu que ça plongeait le PQ beaucoup. Là.
Vous devriez préférer ça quand même.
Non. OK, pour être honnête et pour être objectif, je comprends. Le libéral dans moi, oui, le pur politicien libéral, oui, je veux toute cette affaire qui peut faire plonger le PQ, éliminer les adversaires de PLQ, que ce soit souverainiste ou non, bien sûr, je préfère ça. Là. Mais pour être, on est ici en essayant d'être le plus objectif possible, non, je pense que le Parti québécois, sa raison d'être et l'indépendance.
Est-ce que ça peut être viable électoralement? Jusqu'ici, le discours dominant, c'est de dire, bon, écoutez, les Québécois ne veulent pas
encore une
de ça,
fois,
donc
encore
le
une
PQ
fois,
sera parler, éloigné du pouvoir.
Le référendum en 1995, c'est différent des référendums en 2020. Les communautés culturelles sont maintenant un incontournable et là, pour les convaincre pour voter pour l'indépendance, il faut qu'ils soient rassurés comme quoi si on devient indépendant, ça ne va pas nous faire au moins perdre beaucoup si on reste au Canada.
Donner lieu, par exemple, à des politiques très dures.
Ça aussi, c'est pour cela, c'est très important de parler de tout ça. Je peux te rassurer et t'assurer aussi, si on parle qu'il n'y aura pas nécessairement des enjeux identitaires pour forcer la domination d'une majorité versus une minorité, si on n'a pas ça dans le débat, beaucoup de communautés culturelles vont adhérer là, vont dire OK, bon, on va essayer. Et par la suite, le deuxième élément, c'est l'élément économique. Mais je dirais l'élément identitaire, c'est plus important, selon mon expérience sur le terrain, comme immigrant moi-même aussi. C'est un élément très important. C'est l'ouverture et que tout le monde est égal.
Maintenant, toujours en terminant sur la chefferie du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, alors qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Lapointe?
Ben, le danger pour Paul Saint-Pierre,
parce qu'il annonce un changement de position.
Oui.
Est-ce qu'il pourra être, je parle de la souveraineté spécifiquement, il a été orphelin politique, ensuite il a été péquiste, post-Pélado, en disant on était trop proactif sur l'indépendance, faut pas forcer ça dans la gorge des Québécois. Et puis ensuite, il disait on fera un référendum dans un second mandat après un sondage et une initiative populaire. Enfin, c'était compliqué. Et là, maintenant, il semble dire qu'il sera très clair et concis et expéditif là-dessus. Est-ce que c'est ce que vous comprenez de son propos là, dans les articles qui ont
tout à fait.
Donc, qui ont coulé en fin de semaine?
Je pense que au contraire de Sylvain Godreau qui devra le faire, lui s'est ajusté à la nouvelle donne, au nouveau contexte.
Mais jusqu'où on peut s'ajuster sans avoir l'air opportuniste? C'est ce que je vais vous demander.
Non, je pense que n'importe quel général, n'importe quel joueur d'échecs, n'importe quel stratège marketing doit s'ajuster à une nouvelle donne. Et la donne au Québec, on en a discuté souvent, le PQ est libéré du fardeau de gouverner. Il n'a pas besoin de battre les libéraux. La donnée fondamentale du changement d'attitude des candidats à la chefferie du Parti québécois, c'est celle-là. Ce fardeau-là étant laissé à la CAQ, si j'ose dire, ils peuvent revenir à un discours plus franchement indépendantiste
qui fait abstraction de
la nécessité de prendre le pouvoir rapidement.
Comme péquiste, vous êtes en train de me dire, maintenant qu'il n'y a aucun danger qu'on prenne le pouvoir, on peut se permettre d'être indépendantiste.
Non, c'est pas ça. C'est pas le danger de prendre le pouvoir.
Non, mais
c'est
aucune
la nécessité.
Obligation à faire, recette électorale.
Écoutez,
vous me dites que c'est un pis-aller, en fait.
La stratégie de Jean-François Lisée était fondée non pas sur le désir absolu de remporter les élections, mais sur la nécessité absolue de battre les libéraux.
Il y a une nuance, c'est un choix de mots, quand même.
Non, il y a une nuance entre les deux. C'est les mêmes conséquences stratégiques, si on veut. Donc, c'est facile de confondre les intentions, mais la donnée stratégique, c'est celle-là. Et donc, Paul Saint-Pierre Plamondon s'est recentré au sens du Parti québécois. Il a abandonné un certain nombre d'idées un peu folichonnes là, qui pouvaient servir à l'amener à se distinguer, à sortir les vieux des exécutifs, faire signer 5 millions de personnes avant de tenir un référendum. Il y a des idées comme ça qui ne tiennent pas la route.
Il ne s'est fait beaucoup aimer avec ça.
Il a attiré l'attention, puis parfois les débats sont folichons.
Il y a des gens qui sont fâchés contre lui quand même au Parti québécois là-dessus. Là.
Oui, sur les vieux, oui.
Ce jeune impertinent. Non,
il y a quelques-uns.
Syndicaliste La Violette,
40 ans passés.
Il nous fait avoir l'air de vieille sacoche.
Ouais. Donc il s'est recentré et je pense qu'il y va pour gagner. Lui. Dans son esprit, il y va. Cette fois-ci, on le voit, il ne le fait pas pour provoquer des débats ou attirer l'attention, naître politiquement. Je pense qu'il le fait pour gagner et on verra au fil des semaines là, quel genre de discours lui permettra, tout en étant davantage recentré, lui permettra néanmoins de se distinguer de ses adversaires. Ce qui est son prochain défi.
Il faudra qu'on fasse une autre émission sur la distinction que vous faites entre la volonté de prendre le pouvoir et la nécessité alléguée qu'on gouverne comme si c'était la volonté de Dieu, finalement, ou quelque chose comme ça. Bref, une mission qui va au-delà des intérêts.
Les Chinois diraient un mandat du ciel.
Oui, parfait. Voilà. On voulait en jaser. Il faut qu'on en jase un peu. Xavier Camus, cet inspecteur du web, quiconque, chers auditeurs, fait de la politique, s'intéresse à la politique, suit la politique et est assez branché sur les réseaux sociaux, a vu passer des partages de publications de Xavier Camus, ce prof de cégep qui tient aussi un blog à travers lequel il dénonce, certains diront, il fouille les poubelles du web pour aller chercher des déclarations, souvent de quidam, hein, des gens qui, dans des groupes Facebook plus ou moins privés, disent des affaires, parfois des choses parfois monstrueuses sur les immigrants, tel ou telle religion, l'islam évidemment ou autre chose encore il les dénonce, il les démasque, il est parvenu se faisant à faire tomber des candidatures notamment de péquistes aux dernières élections en mettant des candidats en face de leurs déclarations passées un peu inconséquentes ou irréfléchies ou carrément inacceptables ou insupportables mais il est aussi dénoncé par plusieurs qui disent au fond M. Camus sous couvert de lutte contre l'intolérance fait de l'amalgame. Et c'est ainsi que dans son blog, il met toujours en parallèle entre deux articles sur des horreurs débusquées sur le web. Il dénonce ce qu'il appelle la droite identitaire nationaliste. Alors, les chroniqueurs du Journal de Montréal, Boccoté, Martineau, Bombardier et compagnie et tant d'autres, et aussi des gens qui font de la politique. Et il les accole comme ça à des courants sociaux plutôt laids, Alors, est-ce qu'il n'y a pas là... Est-ce que... c'est une... William Corbatly, c'est une... Vous qui êtes, encore une fois, plutôt progressiste ou à gauche sur ces questions-là, l'ouverture à l'autre, l'immigration et le reste, est-ce que vous considérez qu'un travail comme celui-là est bénéfique ou, comme le disait en fin de semaine, en réplique dans la presse, le professeur Charbonneau, une démarche problématique parce que c'est la démarche de la délation et de l'amalgame?
Bon, en fait, la première, la question que je me pose, c'est que est-ce que ce qui expose est vrai ou non? Alors, jusqu'à maintenant, aucune affaire n'a été jugée qui était fausse, par exemple. Alors, c'est pas de la fake news.
C'est-à-dire quand ils rapportent là,
exactement,
en reproduisant des conversations,
exactement,
on voit bien que c'est vrai. Là.
C'est ça.
Monsieur Untel, dans le rang 8 à 5 quelque chose, a dit que...
Oui, mais n'oublions pas, avec les médias sociaux, monsieur qui est dans les rangs 8 peut se connecter avec monsieur à Montréal.
Parce avec qu'on le Dalai avec Lama. Juste...
Oui. Alors, tout le monde, ça, les réseaux sociaux, là, c'est ça là, on a parlé l'autre jour, c'est qu'ils sont très efficaces. Alors... deuxième chose, concernant les chroniqueurs.
Mais est-ce qu'ils donnent trop d'importance à ces gens-là qui disent des énormités, des conversations qui étaient autrefois dans les tavernes? Hein? C'est pas arrivé avec les réseaux sociaux, là, les gens qui font preuve d'un certain racisme à l'occasion, pour le dire mais, franchement.
Mais là, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ont été condamnées devant les tribunaux sur de tels discours. Alors, c'est pas trop d'importance, là. Ce sont maintenant des actes criminels.
Alors, c'est un problème réel.
Alors, c'est un problème, pour moi, réel. Est-ce que ça veut dire que la majorité des Québécois sont comme ça? Pas du tout.
Et si... la majorité des gens qui sont sur la ligne plus nationaliste, plus identitaire,
non,
d'après
pas non
vous?
Plus. C'est pour cela que moi, quand on parle de Mathieu Bocoté, je ne dis pas que Mathieu Bocoté est un raciste, c'est un je ne sais pas quoi, et que c'est intolérant. Pas du tout. Quand on voit la démarche, par exemple...
Mais Camus a un peu l'air de le dire, lui, quand
mais
même.
Lui, il peut dire ce qu'il veut. Mais par exemple, si je compare avec Martineau, entre Mathieu Bocoté et Richard Martineau, toute une différence là, entre les deux. Là. Martineau, pour moi, écoute, en 2014...
Plus provocateur, plus polémiste.
Oui, en 2014, là, l'affaire quand l'État islamique a commencé à être plus présente, j'ai moi-même enregistré une vidéo avec la presse comme quoi, moi, le musulman, je dénonce l'État islamique tel. Mm-hmm. Je l'ai envoyé à Martineau à l'époque. Comme quoi, regarde là, ce que tu dis, c'est pas vrai. Il m'a bloqué de sa page, de son compte Facebook, juste pour le fait que je montre que ce que tu dis là, c'est
à l'effet que tous les musulmans ou
exact.
Les arabes
et
au sens plus
large.
Oui,
et en plus, Martineau spécifiquement là, alors là, il y avait une étude en fait qui est sortie en 2017. Qui a dit, selon le sociologue Mélanie Beauregard, les discours sur l'islam et ou les musulmans publiés au sein des chroniques de Richard Martineau participent à l'islamophobie, conclut l'étude qui se penche sur 438 textes entre 2006 et 2014. Richard Martineau ne fait pas preuve d'un racisme évident, mais il y a une islamophobie ambiante dans ses textes. Alors, ça, c'est les chroniques de Richard Martineau alimentent l'islamophobie selon une étude Radio-Canada, mars 2017.
Alors, ce qui vient, selon vous, justifier un peu la démarche de quelqu'un comme Xavier Camus, par exemple. Le temps nous presse.
Voilà.
Frédéric Lapointe, qu'est-ce que vous pensez? Vous connaissez Xavier
oui,
Camus,
sûr,
vous avez
sûr.
Vu passer, vous aussi, ses publications. Qu'est-ce qu'on peut penser? Moi, des fois, je me dis... Franchement, je suis stupéfait des fois devant ce qu'il débusque. Je me dis, ma foi, c'est vrai qu'il faut se pencher sur ce problème-là. Puis ensuite, on prend du recul, puis on se dit, ouais, j'en ai connu, moi, des gens dans des tavernes et dans des lieux privés qui disaient des choses comme ça, qui ne passent jamais, finalement, à l'acte et qui vont même éventuellement voter à gauche ou au centre, qui ne sont pas du tout dans la vie quotidienne à l'extrême droite. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
Ben, le danger, c'est d'essentialiser les individus, de les résumer à un propos qu'ils peuvent avoir tenu à un moment donné, le propos qui peut être mal interprété, et d'en faire une utilisation politique opportune. Je ne vais pas mentionner le cas Camus. Prenons Lucien Bouchard et M. Michaud, qui avait été l'objet d'une résolution de l'Assemblée nationale.
Yves Michaud,
voilà. Alors, c'est pas une page Facebook, hein, c'est une résolution de l'Assemblée nationale. Et à l'époque, les gens ont haussé les épaules en disant, oui, on dénonce un propos raciste à l'Assemblée nationale, mais ça n'avait pas de bon sens. Là. on s'entend, on ne prend pas les propos d'un individu mal interprété, mal rapporté, mal exploité pour en faire un procès public. Alors, ce que fait Xavier Camus, finalement, est assez bénin. Si on compare à ce qu'on a déjà vécu y compris à l'Assemblée nationale.
Mais il fait tomber des candidatures, il fait poursuivre et arrêter des gens, encore récemment, en fin de semaine. Et ça, c'est à son crédit, là.
Puis en
accumulant... Ce blogueur de la région de Granby, je crois, qui disait des monstruosités.
Ce qui arrive, c'est qu'en accumulant ce crédit, il accroît son autorité morale et ce qui lui permet de pointer du doigt des gens que son public associeront effectivement à des xénophobes ou des racistes. Et donc, il accumule un potentiel, il accumule du pouvoir. Et ça, c'est à surveiller, là. Puis peut-être qu'il faut le dénoncer s'il se trompe ou s'il exagère.
C'est vrai qu'il faut noter que ces publications sont entrecoupées de publications presque amoureuses sur Québec solidaire.
Il y a une utilisation politique de ça, mais avant de lui lancer la pierre, comme je l'ai fait, j'examine ce qui s'est passé dans mon propre camp, puis mon propre chef de parti s'est livré au même genre d'exercice. Alors, il faut respirer par le nez. Ce qui est peut-être plus grave...
Vous parlez de Jean-François Lisée.
Non, je parle de Lucien Bouchard.
Ah, pardon, à l'époque. Parce que Jean-François Lisée est en campagne à la chefferie, parfois. Il y a eu de l'amalgame, là aussi, un peu.
C'est un autre sujet. Mais ce qui est peut-être plus grave, c'est que les gens, ayant peur d'être pointés du doigt, limitent leur capacité d'analyser des problèmes et de souligner la réalité des choses. Puis je prends l'exemple de la représentation des minorités visibles parmi les employés de la ville de Montréal.
J'allais y venir, ne vous inquiétez pas. Alors d'abord, je le dis à nos auditeurs, dans ce cas-là, là, on a un peu terminé pour l'instant sur Xavier Camus, la chefferie du PQ. Cette semaine, la ville de Montréal annonçait une initiative, enfin un jalon là, dans son initiative, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, Montréal employeur inclusif.
Opération porte fermée.
Oui, mais c'était dans le cadre de la stratégie dont je vais retrouver le nom dans un instant, qui est une stratégie de promotion d'ouverture aux minorités dans l'embauche, non seulement de la ville, mais des entreprises sur le territoire de Montréal. Et à cette occasion, il y a des gens qui ont servi la critique habituelle qu'on entend souvent. Montréal peut bien faire la leçon, mais si on regarde les chiffres à l'heure actuelle, les minorités visibles sont tel pourcentage de la population. Or, à l'emploi de la ville, il y a beaucoup moins que ce pourcentage de minorités visible. Et si je comprends bien, vous avez une réponse à cette critique-là, vous.
Les gens ont tout faux. Et j'invite les gens à venir débattre avec moi au besoin. S'il y a un problème de chômage parmi les minorités visibles à Montréal, ce n'est pas à cause de la ville de Montréal. La ville est plus facilement accusée, mais ce n'est pas à cause de la ville. Il y a en ce moment, à la ville de Montréal, 13-14 % de membres des minorités visibles parmi les employés. Et lorsqu'on regarde la population de Montréal, on est peut-être à 29-30 % de minorités visibles. Alors, les gens comparent les deux, ils se disent « Ah, ben là, il y a un retard ». Mais il faut comprendre que les employés de la ville de Montréal sont embauchés dans la région de Montréal. Et dans la région de Montréal, il n'y a pas 30 % de minorités visibles. Il y a 22-23 % de minorités visibles.
Alors,
ça, c'est
vous voulez dire
point.
Qu'on peut venir de Saint-Jean-sur-Richelieu ou Blainville et travailler à la ville de Montréal?
Je suis convaincu que les villes où il y a le plus d'employés de la ville de Montréal, c'est Repentigny et Beauharnois et Châteauguay. Donc, ce n'est pas Montréal-Nord. On peut dire que c'est un problème, mais les gens de Châteauguay ont le droit de travailler. Ils ne peuvent pas être discriminés en raison du fait qu'ils résident en dehors de Montréal. Mais le deuxième
Donc, vous êtes en train de dire, au fond, Montréal, c'est pas juste une île. C'est dans le Québec et par conséquent, il faut prendre des mesures plus larges.
Et mieux que ça, les employés de la ville de Montréal, ils n'ont pas été embauchés tous l'année dernière. Ils ont été embauchés en moyenne quand? Moi, je vous soumets que la moyenne est probablement 2001. Et si on regarde en 2001...
Parce que vous imaginez une quinzaine, une vingtaine d'années, 18
si
ans...
Si on fait une carrière de 35 ans à la ville de Montréal, on a été embauché il y a 35 ans,
pour ça que vous
ou il y a 34 ans, ou il y a 33 ans, donc en moyenne, il y a 17 ans. Et lorsqu'on regarde en 2001 la proportion de minorités visibles dans la région de Montréal, je vous le donne dans le mille, c'est 13,5 %. C'est à peu près la proportion de minorités visibles dans la ville de Montréal. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas de discrimination. C'est que les mécanismes de promotion de l'inclusion des minorités visibles à la ville, ils existent depuis deux générations et ils ont fonctionné. La vraie nouvelle, c'est que la ville de Montréal fait sa job. Et malgré ça, parce qu'il y a un discours ambiant stigmatisant la majorité, stigmatisant les institutions, si vous dites ça dans le discours public, on va vous traiter de raciste. Bon, moi, j'ai essayé.
Vous serez peut-être sur le blog de Xavier Camus.
Je l'invite à venir discuter de ça.
La stratégie dont on parle, et l'émission se termine, ça s'appelle Montréal inclusive au travail. Voilà, c'est de ça dont il était question cette semaine. William Corbatier, en terminant là-dessus.
Je termine en disant
vous
que...
Vous qui êtes quand même visible et en minorité.
je termine en disant j'espère qu'un jour, on va utiliser comme seul critère les compétences et non pas l'origine de la personne.
Ah, mais vous êtes subversif. Alors, merci beaucoup, William Corbatli, notre libéral en résidence, notre péquiste, Frédéric Lapointe, Nick Payne, qui vous dit à lundi prochain. Merci d'avoir été à l'écoute.